nos frères qui nous ont précédés ont parlé avec justesse des souffrances du serviteur et de l'importance de son implication face à une société qui vit dans la déroute spirituelle. Et les souffrances qui ont été soulignées, les diverses sources des souffrances nous apprennent que il est nécessaire pour le serviteur ou la servante de Dieu d'être prêt, d'être consentant à faire face à l'hostilité ou à l'incompréhension, à sa propre nature aussi. Le Seigneur a mis sur mon cœur au fil des derniers jours de vous parler également des souffrances en m'attardant sur les réactions intérieures du serviteur face à la souffrance. Il y a un texte des Écritures que le Saint-Esprit a voulu nous rappeler, nous garder pour nous faire découvrir quelques éléments particuliers de ce que le serviteur connaît dans son âme lorsqu'il est confronté à la souffrance. Je vous propose une lecture dans le livre de Jérémie, s'il vous plaît, au chapitre 1er. Jérémie, chapitre 1er, verset 1er. Parole de Jérémie, fils de Hilkijah, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je l'avais consacré. Je l'avais établi, prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur Éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Lui, l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel lui dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. L'Écriture, pour le rendre grâce au Seigneur, nous apprend des précieuses vérités à l'égard de ce que sont les vies intérieures de ses serviteurs, de ses enfants qui sont confrontés, comme c'est le cas Jérémie, à des moments difficiles face à leur fidélité. Il est donc aussi question dans l'Écriture des souffrances du serviteur comme conséquence de sa fidélité dans le message, dans la prédication. L'Écriture nous présente le prophète Jérémie comme étant celui dont le cœur et la personnalité a été révélé plus que tout autre prophète de l'Ancien Testament. Jérémie, nous dit la Bible, était capable d'émotions profondes. Par nature, il était sensible et effacé. Jérémie, comme nous le savons, a été connu comme le prophète qui pleure. Et ça, sans aucun doute, c'est la clé de ses écrits. Si nous découvrons les raisons de ses pleurs, nous serons mieux capables de comprendre l'importance de son message et la profondeur de ses souffrances. Il y a donc des vérités profondes que nous découvrons lorsque le Saint-Esprit ouvre le cœur, les états d'âme du serviteur qui subit la contestation, qui subit l'incompréhension, qui doit persévérer fidèlement dans le service pour son Dieu. Malgré toute cette sensibilité, malgré cette timidité apparente, malgré le fait qu'il était effacé, l'Écriture nous apprend dans les lignes qu'on a lues que l'Éternel a choisi Jérémie pour qu'il puisse présenter un message impopulaire. Et c'est de l'impopularité de son message qu'a surgi dans bien des temps les souffrances morales auxquelles il a été confronté. Dans le verset 10 qu'on a lu, dans le verset 19, un peu plus loin, on aurait pu le lire, nous voyons l'Écriture qui, c'est l'Esprit qui nous dit qu'ils te font la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il a été choisi malgré sa sensibilité pour dénoncer l'apostasie d'un peuple, le sien, la mondanité du peuple de Dieu dans lequel il travaillait, le matérialisme, le formalisme, l'activisme de ceux qui se réclamaient du nom de Dieu, des gens de son époque. Il ne s'est jamais laissé influencer, il est demeuré inflexible dans le message que Dieu lui avait confié, ni argent, ni flatterie, ni menace, ni souffrance ne l'ont jamais détourné de la tâche que l'Éternel lui avait confiée. L'Éternel lui avait dit, ne tremble pas, parce que c'est moi qui les ferai trembler. Il a demeuré fidèle au sein d'une société qui faisait face à des tensions internationales semblables aux nôtres. Il avait des crises pour la suprématie mondiale, des crises politiques entre d'une part Babylone, l'Égypte, la Syrie. Son peuple, le peuple juif, était au milieu de cette situation, tiraillé à droite, à gauche et au centre. Jérémie a été appelé à prêcher sévèrement un message impopulaire au milieu d'un déclin spirituel de son peuple, du peuple d'Israël, du peuple de Juda, et il l'a fait fidèlement. Il a prêché, non pas seulement comme nous le faisons, plusieurs d'entre nous depuis un certain nombre d'années, mais il a prêché fidèlement pendant 40 ans et plus, dans une ambiance écrasante, accablée par l'incompréhension de ses frères, par le mépris, par les accusations, par la contestation. Il a prêché pendant 40 ans sans voir du succès dans sa prédication, dans un monde où la parole de Dieu était peu respectée, dans un monde où on s'attachait à des illusions spirituelles. Il a prêché l'Évangile à un peuple qui s'était détourné de Dieu, de l'Éternel, dit l'Écriture dans le chapitre 2, verset 13. Il a prêché à un peuple qui s'était détourné de l'Éternel, qui s'était tourné vers des citernes crevassées, vers des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Et il a mis l'accent sur la vérité face au service de Dieu. Il a dû s'opposer à un service extérieur, à l'activisme de son peuple, à des espérances trompeuses, à des gens qui allaient au temple, qui pratiquaient leur religion, qui s'efforçaient de garder des rites extérieurs. Et toujours, encore et toujours, il a dû persévérer dans l'annonce du message que Dieu lui donnait. Comment, frères et sœurs, se traduisent l'effet d'une telle situation sur le cœur du serviteur? Il n'était pas naturel pour cet homme de faire face à de telles contrariétés. Mais le Saint-Esprit, comme on l'a dit, n'a pas voulu omettre des crises intérieures du prophète. Elles font partie des souffrances intérieures de celui et de celle qui veut demeurer fidèle à son Dieu, qui ne veut pas faire de compromis, mais qui toujours veut, dans la crainte de l'Éternel, livrer un message intact et pur, qui déplaise, qui heurte. C'est pourquoi c'est important de considérer les conséquences dans le cœur du serviteur. À toute proportion gardée, on verra que ça correspond en bonne partie à des situations que nous vivons actuellement parmi le peuple de Dieu. Et je crois que c'est important que nous comprenions que malgré ce que Jérémie a connu, malgré ce que nous connaissons dans le service de Dieu, qui que nous soyons, il est important de nous inspirer de cet homme de Dieu pour persévérer alors même que tout en nous voudrait crier d'abandonner. Jérémie n'était pas une marionnette. Il était un homme sensible et il ne pouvait pas rester de glace. Il ne pouvait pas rester froid ou indifférent à la contestation, à la froideur, à l'incrédulité, au formalisme de sa génération. Et l'une des premières crises qui a pu naître dans le cœur de Jérémie est justement le moment où nous le voyons confronté à l'insuccès de sa prédication. Dans le chapitre 9, s'il vous plaît, de Jérémie, nous trouvons le prophète dans une réaction vivante, une réaction vive, qui émane de son cœur et que le Saint-Esprit nous a gardé, parce qu'il arrive à la réalisation du fait que même s'il prêche, même s'il s'efforce d'être fidèle, même s'il paye le prix nécessaire pour livrer tout le message de Dieu, il ne voit pas de changement autour de lui dans la génération et dans le peuple qui l'entoure. Chapitre 9, on ne lira pas beaucoup parce que tout le chapitre 9 parle des lamentations du prophète à l'égard du peuple qui est le ciel. Oh, si ma tête était remplie d'eau, écrit-il, si mes yeux étaient comme une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple et je m'en éloignerais. Et tout le reste du chapitre, pour abréger, on peut le lire pour soi-même, nous montre un homme qui relève tant de manquements de mal, de situations qui vont en s'aggravant, malgré le fait qu'il enseigne, qu'il prêche, qu'il avertit, qu'il est le porte-parole fidèle et honnête de son Dieu, il est trouvé lui-même confronté au fait qu'il n'y a pas de résultat. Quelle cuisante souffrance, frères et sœurs, dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un serviteur, d'une servante de Dieu, que de se heurter à l'absence de statistiques, à l'absence des chiffres, à l'absence de l'augmentation visible d'une manifestation tangible d'un résultat que l'on peut étaler pour justifier notre engagement dans l'œuvre de Dieu. Ah, pourtant, le serviteur, il y a un puissant piège du sein de ses souffrances, il y a un puissant piège qui risque de nous laisser sombrer dans un compromis pour nous permettre d'avoir du résultat visible. Pendant des années, on l'a dit, il n'y avait pas de résultat. Ah, Seigneur, c'est inutile que je travaille, semble-t-il dire en son propre cœur. Il y a cette contestation, ce découragement. Seigneur, ça ne sert à rien. Comment se fait-il que je m'emploie, que je me dépense, que je sois fidèle? Comment se fait-il qu'il n'y a pas de résultat? Seigneur, j'ai besoin de résultats, semble-t-il s'écrier. Et plus que jamais, vous savez, les serviteurs, les servants de Dieu sont confrontés à cette souffrance intérieure. On vit dans un monde de sondage, un monde de chasse, un monde de progrès, un monde de statistiques, un monde technique, où tout veut être compilé, tout veut être figuré sur une charte quelconque. Et nous vivons comme peuple de Dieu, comme serviteurs et servantes de l'Éternel. Cette terrible souffrance, ce piège insidieux qui consiste à baisser sa vision pour avoir de l'assistance, pour avoir des résultats visibles, à présenter un évangile dilué, un évangile sonné, comme quelqu'un l'a dit au début de cette journée, où ce serait plus facile de présenter un message qui est une façon de vivre, une philosophie de vie, plutôt qu'une nécessité à la repentance. Dans le chapitre 13, sans qu'on cherche le texte, Jérémie a dit, oh, je pleurerai en secret. Vous savez, le serviteur qui a été Jérémie, il n'a pas toujours été perçu comme la vadrouille qui se promène d'un port de porte et d'autre, en train de laver les planchers, de plancher de ses larmes. Autour de lui, dans la nation, on n'a pas toujours soupçonné les cris profonds, les brisements intérieurs, les déchirements que cet homme a connus. Il le dit, je pleurerai en secret. Ah, mes frères et sœurs, voilà un des éléments qui fait partie de la vie du service fidèle d'un serviteur, d'une servante de Dieu. Frères et sœurs, il nous faut avoir des cœurs capables de pleurer en secret. Il faut y avoir en nous des cœurs que le Seigneur fasse, que le Seigneur développe, capables d'être sensibles à la froideur, à l'entêtement, au formalisme. Il faut que le message de Dieu atteigne notre propre cœur. Il faut admettre, consentir, demander, Seigneur, rends-moi sensible aux besoins de la nation de mon peuple, et particulièrement ça de ça. Oh Seigneur, rends-moi sensible au formalisme, à la mondanité de mes frères et de mes sœurs, du peuple de Dieu duquel je suis, de mon propre formalisme, de ma propre mondanité, de ma propre froideur, de ma propre indifférence, de mon propre activisme. Brise en moi, Seigneur, ce cœur brûlé. Mais si nous prions ainsi, le Seigneur rends-moi sensible au Dieu. Nous souffrirons de l'insuccès de notre prédication, de notre témoignage. Nous souffrirons de l'endurcissement et du formalisme de la mondanité que nous verrons autour de nous autres. Jérémie a connu cette dimension de la souffrance, cette réaction dans le cœur de celui qui veut être fidèle à son Dieu. Un autre passage pour aller un peu plus vite, dans le chapitre 12, ici, s'il vous plaît, où nous retrouvons cette fois le serviteur confronté à une autre réaction de son âme, de son cœur. En plus de l'insuccès de sa prédication, l'absence de résultat visible, il y a toujours eu un résultat aux yeux de Dieu parce qu'il accomplissait Ce que Dieu voulait, même s'il n'y avait pas des yeux humains pour le chiffrer, le dénombrer, le mettre sur une lettre, dans une lettre circulaire, pour qu'on peut dire. Il y a toujours eu aux yeux de Dieu une satisfaction de l'Éternel qui voyait en son serviteur la fidélité, mais ça ne se voyait pas aux yeux du monde. Et l'insuccès de sa prédication persistait plus dans le chapitre 12, nous le voyons là, qui est maintenant soulevé par la contestation intérieure face à son service. Chapitre 12, verset 1 à 4, s'il vous plaît. Oh, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger. Prépare-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-il desséché à cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent. Voilà un autre élément qui risque de naître, qui peut s'élever, qui s'élève de nos cœurs, souvent du sein de la tourmente, de la persévérance, de la continuité dans l'enseignement, dans la prédication, dans le témoignage au travail ou ailleurs. Seigneur, j'aurais envie de tout lâcher. J'aurais envie de me révolter. C'est à mes yeux injuste. Il y a quelque chose, Seigneur, je ne me sens pas à l'aise. Il l'admet. Et du plus profond de son admission, c'est probablement de là que vient la plus grande de ses victoires, parce que il reconnaît en lui des états d'âme qui sont propres à un être humain. Seigneur, je voudrais tant exploser, démissionner, tout abandonner. Pourquoi laisses-tu faire une telle situation? Il ne vous est jamais arrivé, frère de ça, de vous poser de telles questions. À l'université, au cégep, aux études, au travail, parmi le peuple de Dieu. Pourquoi laisses-tu faire de telles choses? Seigneur, tu es près de leur bouche. Ils ont toujours ton nom dans leur bouche, mais loin de leur cœur. Pourtant, tout va bien pour eux autres. Il n'y a rien qui les atteint. Ils sont heureux, ils persévèrent. Alors que tu connais mon propre cœur, dit Jérémie, tu sais quel engagement tu m'as demandé. Tu sais que je m'efforce d'être fidèle à toi. Et il réalise de plus en plus la situation s'aggrave. Voilà des réactions qui sont propres à naître dans le cœur d'un serviteur. Des réactions qui naissent du sein de la souffrance et qu'il est souvent nécessaire d'admettre, de confesser au Seigneur, probablement. De mettre à ses pieds et d'amener au Seigneur en disant, Seigneur, c'est ça qui se passe dans mon cœur. Je le reconnais. Je t'avoue, Seigneur. Ces réactions que je ressens en moi. J'ai besoin de croire au mon Dieu. J'attends une réponse. C'est cette contestation du prophète est une sorte de cri au Dieu. Réponds-moi. Et la réponse vient dans le chapitre 12, au verset 5, où l'Éternel ne laisse pas son serviteur déchiré ou brisé sans réponse. Si tu cours avec des piétons qui te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu te crois en sûreté dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te disent des paroles amicales. Le Seigneur est fidèle envers son serviteur et lui donne une réponse. Si tu te sens heureux, en bonne condition, seulement dans des situations favorables, seulement quand ça va bien, quand il n'y a pas de lutte, quand tout fonctionne, si tu n'es pas capable de supporter le combat normal de toute vie d'enfant de Dieu, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, ça c'est le normal de la vie, de la marche chrétienne. Comment pourras-tu lutter avec des chevaux lorsqu'il y aura des situations qui te dépassent, qui te dépassent toi-même? Si tu te regardes toi-même, si tu n'apprends pas à vivre un jour à la fois, apprendre un jour à la fois les situations en laissant à ton Dieu le soin de régler une chose à la fois, tu n'arriveras jamais à vaincre. Je pense qu'il est important que nous apprenions à marcher un jour à la fois. C'est quand on est avec notre égal, avec des piétons, que l'on doit être fidèle au Seigneur. Nous ne pouvons pas attendre que ça aille mal, qu'il y ait des difficultés, que les situations dépassent nos forces, que les situations dépassent nos connaissances. notre consécration. Nous ne pouvons pas attendre des moments de crise supérieure pour marcher avec notre Dieu. L'Éternel lui dit, tu dois un jour à la fois prendre ce qui est à ta portée. Chapitre 15, aussi, où nous trouvons cette fois le prophète assailli, non plus par l'insuccès de sa prédication, non plus par la contestation, mais il est ici assailli par le doute, par la perplexité devant le travail de Dieu. Chapitre 15, verset 15 à 18, s'il vous plaît. Tout cela sont des états d'âme qui se font jour dans la vie du serviteur souvent. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, n'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs, ne m'enlève pas tandis que tu le montres, que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. Car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr. Voilà la contestation qui fait suite cette fois aux autres. Est-ce que je me serais trompé, Seigneur? Comment se fait-il que de telles situations serais-tu pour moi celui qui n'apporte pas la vraie satisfaction, le vrai contentement, une eau trompeuse? J'ai pourtant recueilli tes paroles. Je les ai dévorées. Elles ont été pour moi le désir de mon cœur. Ah, des fois, vous savez, les serviteurs avaient dit Jérémie, il voyait en lui peut-être l'envie de retourner en arrière. Je pose la question, est-ce que je suis vraiment là où le Seigneur me veut? Est-ce que j'accomplis vraiment le travail de Dieu? Dans toute vie, d'une manière ou d'une autre, on est amené à s'examiner. Et souvent, ces souffrances risquent de conduire au découragement, au fond de l'abattement, et risquent de neutraliser le cœur du serviteur. Jérémie doit apprendre que l'Éternel est celui qui comprend. Dans le verset 19, on trouve une réponse. Chapitre 15, verset 19, on trouve que l'Éternel, après avoir entendu le doute, la perplexité de son serviteur, la réponse suit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. La réponse dans de telles étendants, dans de telles crises, dans de telles réactions du cœur du serviteur, consiste à revenir au Seigneur soi-même. Si tu te préoccupes de moi, dit le verset 19, si tu te rattaches à moi, tu oublieras ton propre moi. Il y a des moments où il ne faut pas regarder à soi. Parce que nous constatons l'humanité qui nous habite, la faiblesse qui nous habite au niveau du découragement, de l'abattement, de l'envie de tout abandonner. Et le Seigneur dit, tu dois regarder à moi. Ce qui faisait de faire la force de Jérémie, ce n'était pas sa personnalité, ce n'était pas ses qualités. Ce qui faisait la force du serviteur, c'était l'appel de Dieu. Dieu savait qui il était. Depuis son enfance, avant qu'il naisse, l'Éternel le connaissait. L'Éternel ne s'était pas fait prendre par surprise par Jérémie, animé d'un cœur sensible, de caractère effacé. L'Éternel connaissait tout à fait tous les éléments intérieurs de la vie de son serviteur. L'Éternel l'avait choisi. C'est ça qui faisait la force du serviteur. Et l'Éternel lui dit, tu n'as qu'à te rattacher à moi. Voilà la réponse que l'Éternel doit nous faire dans bien des situations où peut-être nous nous retrouvons seuls. Dans un milieu qui ne veut pas être perméable à l'Évangile. Seigneur, j'ai besoin de persévérer parce que je reste accroché à ta parole qui me parle. Chapitre 17, s'il vous plaît aussi. Chapitre 17, verset 15, 16. Un autre élément maintenant où nous voyons le serviteur avec des réactions intérieures qui l'amènent à avoir des sentiments d'injustice, d'impatience, d'agressivité qui l'amènent. Chapitre 17, verset 15-16. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc? Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur, je n'ai pas refusé, je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur, tu sais, ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. Ne sois pas pour moi un sujet d'effroi, toi, mon refuge au jour du malheur. Que mes persécuteurs soient confus, que je ne sois pas confus. Puis, nous trouvons la réponse au verset 19. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va et tiens-toi à la porte des enfants du peuple. Nous le trouvons ici, face à l'impatience, demandant, Seigneur, qu'est-ce que t'attends pour agir? Qu'est-ce qui se passe? Montre-leur donc des preuves de la véracité du message que tu m'as donné. Ça ne nous est jamais arrivé à vous ou à moi d'avoir envie que le Seigneur montre aux incroyants à qui on annonce l'Évangile, d'avoir des preuves évidentes, d'avoir des preuves évidentes flagrantes que la parole de Dieu est une véritable, le véritable message de Dieu. À quelque part dans notre coin, il y a plusieurs années, il y avait un gars qui était animé de ce désir de prouver aux autres que le message de l'Évangile était vrai. Et dans une de ses prières qu'il faisait, il disait, « Oh Dieu, montre-leur que tu es la vérité. » Rappelait qu'il tombe sur le dos, que les cloches et les églises soient abattues. C'était ça sa prière, c'est pas des farces. Il priait ainsi. On ne dit pas qu'il avait raison, on ne dit pas qu'il était un chrétien qui était en harmonie avec la pensée de Dieu nécessairement dans sa réaction. Mais toute proportion gardée, ici on voit un serviteur dans la personne de Jérémie. Pourquoi tardes-tu? Moi je n'ai pas repoussé ton appel, je suis consentant à te servir, à marcher pour toi, à être ton prophète. Mais que ça prend donc du temps. Et il sent en lui naître des éléments d'agressivité. Il voudrait que les choses se règlent à sa manière. Il constate qu'il y a des moteurs qui disent, oui, mais la parole de l'Éternel, tu prêches, et ça donne quoi? Et il est obligé de dépendre du Seigneur qui lui est capable d'accomplir en son heure l'œuvre que l'Éternel lui a demandé d'annoncer. Puis dans le chapitre 20, on va terminer avec ça. Le chapitre 20, verset 7, on trouve cette fois le prophète qui est écrasé dans son amour propre. Chapitre 20, verset 7. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est enfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accuse-le et nous l'accuserons ainsi de suite. Voilà donc comment est-ce que Jérémie se retrouve à cause de la fidélité au message de Dieu. Il est humilié, raillé. Il a l'impression d'être un bouffon. Qu'on se moque de lui, qu'il est l'objet de raillerie, qu'il est la risée du peuple. C'est difficile pour un être sensible, serviteur ou servitant du Seigneur, de supporter la moquerie. De supporter, quand on veut être fidèle à la prédication de l'Évangile, à ceux qui sont des incroyables. Ou de continuer fidèlement à servir notre Dieu, tant qu'on ne conçoit pas, quand on ne perçoit pas chez nos frères ou dans le peuple de Dieu, un désir de suivre, de marcher pour Dieu. Jérémie a dû continuer et vaincre, malgré les états de son âme, malgré les réactions de son propre cœur. Il a dû soumettre à son Dieu quelles étaient ses réactions et reconnaître que ce n'était pas pour lui un métier. Servir le Seigneur, ce n'est pas un métier. Ce n'est pas une cause. Ce n'est pas une profession, c'est une appel, c'est une vocation que le Seigneur nous a confiée et devant laquelle il se retrouve. Il est obligé de reconnaître, oh, je voudrais bien faire si je pouvais. Et il y a quelque chose en moi de plus que la fidélité à un devoir à accomplir. Il y a en moi ce feu que tu as mis là qui me fait marcher, avancer. Voilà pourquoi il y a eu la victoire, pourquoi il y a eu la persévérance dans la vie et le service de Jérémie. On peut dire alléluia à notre Dieu, c'est la solution qu'il lui a permis de continuer. Parce qu'il a su qu'il était choisi de Dieu. Et il n'y a pas un homme ou une femme sauvé par la grâce de Dieu, né de nouveau, qui veut suivre son Dieu, qui ne peut pas prétendre, je suis un choisi de Dieu. On ne sera pas tous des Jérémies ou des Jérémies, si vous me pensez le féminisme. Personne d'entre nous, loin de ma pensée, de prétendre que je puisse être l'ombre d'un Jérémie. Il n'y a pas de Jérémie, de Jérémie, en comparaison de ce qu'était ce grand géant de Dieu. Mais toute proportion gardée, face à l'appel que nous avons, au talent que nous avons, à la consécration qui est la nôtre, il n'en demeure pas moins que nous vivons dans un monde, dans un climat, parmi une génération où le peuple de Dieu est de plus en plus mondain, froid, matérialiste, où les tactiques du monde, la pensée du monde, les méthodes du monde sont en train de prendre place dans le peuple de Dieu, d'envahir, d'inonder le peuple de Dieu. Il faut faire des choses. Que des petits noyaux d'hommes et de femmes qui veulent rester fidèles au Seigneur se secouent, qu'ils n'aient pas peur de voir la vérité en face, qu'ils reconnaissent que nous sommes des choyés, choisis en même temps de Dieu et que le Seigneur s'attend. Comme il a été dit par celui qui m'a précédé, que c'est important que nous soyons des témoins fidèles, tant autour de ceux qui sont des incroyants que parmi ceux auxquels nous sommes associés dans l'Assemblée. Nous avons pour nous-mêmes, dans notre propre conscience, en soumission au Saint-Esprit, à marcher nous-mêmes, lorsqu'autour de nous autres, peut-être, quelqu'un ne marche pas comme il devrait. Le Seigneur s'attend que nous marchions pour la fidélité avec Dieu. Que le Seigneur bénisse et vous parle.
J'aimerais vous proposer la lecture du chapitre premier du livre de Néhémie. Néhémie au chapitre premier. Vous verrez que ça va faire suite à ce qu'on a entendu. Néhémie, parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu. La 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda, je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu ? » Je priais le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il, et quand seras-tu de retour ?» Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ses lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala le Horonite et Tobija le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours, après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent, je considérai encore la muraille, puis je rentrai par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite. Ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, « Levons-nous et bâtissons. » Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala le Horonite et Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, « Que faites-vous là? Vous vous révoltez contre le roi ?» Et je leur fis cette réponse, « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons, nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. » On va aller jusque-là. Dans le livre de Jérémie, dont nous venons d'entendre parler, au chapitre 25, Dieu avait fait annoncer par le prophète que le peuple d'Israël, c'est-à-dire Juda plutôt, le royaume du Sud serait emmené en captivité, que Jérusalem serait détruite et le pays serait saccagé par l'ennemi. L'histoire du peuple d'Israël est vraiment une triste histoire. Une histoire qui nous montre que l'homme, laissé à sa responsabilité, a failli à ce que Dieu était en droit d'attendre de son peuple. Malheureusement, il y a eu un déclin depuis Salomon. Comme vous connaissez l'histoire, Salomon a été entraîné à l'idolâtrie par des femmes étrangères. Et son cœur s'est éloigné de Dieu. Et à cause de cela, le royaume a été divisé. Le royaume du Nord, appelé parfois Éphraïm, et le royaume du Sud, Juda et Benjamin, les 10 tribus et les 2 tribus dans le Sud. Les 10 tribus, ça a été un déclin continuel. Il n'y a pas eu aucun des rois d'Israël qui a fait le bien. Ils ont tous fait le mal. De chacun d'eux, le refrain est répété sans arrêt, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Tandis que dans le royaume de Juda, il y en a 2, il y a eu 2 réveils, dans le temps de Josias et dans le temps d'Ézéchias. Il y a eu des petits réveils, des retours à la parole de Dieu qui ont ralenti le déclin. Mais à un moment donné, la sentence devait être prononcée. Le Lo ani a été prononcé, ça veut dire pas mon peuple. Dieu a rejeté momentanément son peuple. Et on le voit dans Ésaïe, on le voit dans Jérémie 25, comme j'ai dit tout à l'heure, le peuple devait être emmené en captivité. C'était terrible, les hommes et les femmes enchaînés avec les enfants pour marcher pendant 10 mois, 4 mois ce sera, jusqu'à Babylone. Et on voit dans le livre d'Esdras comment Dieu a permis par Cyrus, le roi Cyrus, un petit résidu remonte à Jérusalem, en Juda, pour y reconstruire le temple et y réinstaurer le culte du vrai Dieu. Et 8 ans plus tard, on se situe environ à 450 ans avant Jésus-Christ, Jérémie est retourné aussi, comme on l'a lu, dans la terre de ses ancêtres pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Et on voit dans l'histoire de ces 2 hommes, Esdras et Néhémie, l'histoire de 2 hommes de Dieu, 2 serviteurs de Dieu, qui ont fait quelque chose dans un temps difficile. Servir le Seigneur, c'est être un témoin de Dieu quand c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Et dans le temps de Néhémie, vous pouvez bien vous imaginer que c'était pas facile. Rebâtir les murailles qui étaient complètement à terre. Jérusalem, ça avait été détruite. Et juste une petite poignée de gens qui sont retournés avec Zorobabel pour rebâtir Jérusalem. On a dit, il y a 3 sortes de personnes dans le monde, à un certain point de vue. 3 sortes. Ceux qui disent, mais qu'est-ce qui se passe? D'autres qui disent, mais pourquoi ça arrive? Puis il y en a une 3e catégorie, ceux qui font que quelque chose se passe. Alors c'est à nous de décider dans quelle catégorie de personnes est-ce qu'on veut être. Ceux qui se demandent ce qui se passe, ceux qui regardent ce qui se passe, puis ceux qui font que quelque chose se passe. Nous apprend que Dieu ne se répète pas toujours. On a, quand le peuple Jérémie a été en prison, il était d'abord dans la cour de la prison, puis il a été en prison. Alors, il a été maltraité, martyrisé, à cause de sa foi. Mais en captivité, on a l'histoire de Joseph, de Daniel, qui lui a été aussi un témoin, mais plus dans son pays, en captivité, en Babylonie. Mais on voit comment Dieu est intervenu en faveur de Daniel. d'abord les amis de Daniel, quand la fournaise était chauffée 7 fois, à tel point que ceux qui les ont jetés dans la fournaise ont été brûlés et sont morts, puis les autres sont sortis du feu, puis ne sentaient même pas le feu. Puis on voit Daniel aussi jeté dans la fosse aux lions, et puis les lions lui ont absolument rien fait. Alors on voit que, pour certains, Dieu permet des circonstances adverses, difficiles. On voit que Dieu permet qu'ils soient même maltraités, des serviteurs fidèles. Puis on en voit d'autres qui font l'expérience de guérison ou de miracles extraordinaires. Dieu se répète pas toujours. Il est souverain. Ça veut dire qu'il n'y a pas de compte à rendre à personne. Il agit pas toujours de la même manière. Mais un jour, on va comprendre pourquoi. Dans le livre de Néhémie, on voit un temps aussi difficile, où c'était seulement quelques-uns qui sont retournés en terre d'Israël. Et ils étaient dans un temps où tout était en ruine, tout avait été gâté. Ce qui était matériel pour le peuple d'Israël est spirituel pour nous. On est aussi dans un temps où, comme on vient de l'entendre, c'est tout a été gâté. L'œuvre de Dieu a été complètement perturbée par, évidemment, plusieurs qui ont amené des éléments étrangers aux manières d'agir de Dieu parmi le peuple de Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement de choses anormales parmi le peuple de Dieu. On veut que ce soit plaisant pour le peuple de Dieu, comme le monde, on imite les méthodes du monde. Et c'est difficile maintenant de remettre en pratique la parole de Dieu d'une façon fidèle, parce que tout a été gâté, même dans les assemblées chrétiennes, malheureusement. La ruine s'est installée, le déclin, et il y a beaucoup de faiblesses, beaucoup, beaucoup de faiblesses, à cause de la mondanité. C'est ce qu'on voit aujourd'hui parmi le peuple de Dieu. Il n'y a plus de murailles, il n'y a plus de séparation. Dans la Bible, il parle souvent des murailles. Les murailles, c'est évidemment ce qui devait entourer Jérusalem pour les protéger de leurs ennemis. Mais au point de vue spirituel aussi, il va y avoir des murailles. Une séparation entre le monde et les chrétiens. Mais les murailles ont été détruites aussi. Le manque de séparation, il est évident. L'absence de zèle est manifeste trop souvent parmi le peuple de Dieu. Et le besoin de consécration, il est criant. Dans sa parole, comme on l'a vu, Dieu n'utilise pas seulement des exhortations pour nous stimuler. Ce n'est pas seulement des commandements, des ordres, mais il y a des exemples. Dieu nous enseigne souvent par des exemples à suivre ou à ne pas suivre. Alors, on peut bien dire que dans ce cas de Néhémie, on a l'exemple d'un homme entreprenant, fidèle, dans un temps difficile. Bien, la même chose que pour Jérémie, on peut pas tous se comparer à Néhémie, on n'a pas tous un rôle aussi proéminent à jouer, on n'est pas tous appelés à la même chose. C'est pas tout le monde qui peut faire que, dans un sens spirituel, ce que Néhémie a fait. Néanmoins, frères et sœurs, on a tous un rôle à jouer. On a tous quelque chose qu'on peut faire pour le Seigneur, qui nous demande la prière, qui nous demande la foi, qui nous demande de l'énergie. On demande de l'énergie, même pour élever des enfants aujourd'hui, d'une manière chrétienne, dans le monde où on est. C'est pas facile. Il n'y a rien qu'on peut faire pour Dieu qui soit vraiment facile. Travailler pour le Seigneur, c'est vraiment mettre la main à la pâte, à quelque chose, à une œuvre qui n'est pas facile, parce qu'on a un ennemi. Néhémie, il y a une chose qui le caractérise, c'est de l'amour pour Dieu et de l'amour pour le peuple de Dieu. Si on veut servir le Seigneur, notre motivation est importante. L'idée, c'est pas de se mettre en avant, mais c'est de vouloir réellement le bien-être du peuple de Dieu. Vouloir le bien du peuple de Dieu. Un frère étudie sa Bible, il prend du temps pour étudier la parole, pour avoir quelque chose à apporter, à partager. Bien, il veut le bien du peuple de Dieu. C'est notre motivation. Vouloir le bien du peuple de Dieu. Avoir un peu de nourriture à partager au peuple de Dieu. Vous avez vu Jérémie, comme il était attristé. La ville où sont les sépultures de mes pères est toute saccagée, toute détruite. Comment pourrais-je avoir l'air joyeux? Et nous aussi, le témoignage de Dieu est tellement gâté. C'est vrai qu'on doit être joyeux comme chrétien, mais on peut aussi être attristé par moments en voyant la faiblesse du témoignage, la ruine du témoignage. Et un frère peut avoir à cœur le bien du peuple de Dieu en étudiant sa Bible, en se nourrissant de la parole pour avoir quelque chose à donner. Comme une sœur qui a des enfants peut aussi faire du bien au peuple de Dieu en élevant ses enfants pour le Seigneur. Tellement d'enfants de chrétiens qui tournent mal aujourd'hui. Que élever des enfants pour le Seigneur, c'est une des plus nobles tâches que l'on puisse désirer dans le monde où nous vivons. Élever ses enfants pour le Seigneur. Faire l'école du dimanche. Pour une sœur, avoir une tenue modeste qui reflète un christianisme vrai. Ça, c'est aussi une chose qui fortifie le peuple de Dieu au lieu d'amoindrir le témoignage, de garder sa faiblesse de témoignage. L'amour pour Dieu, comme ces hommes dans le temps de Néhémie et d'Esdras avaient, l'amour pour le peuple de Dieu. Un but à atteindre. Premier c'était A, deuxième c'était B. Un but à atteindre. Néhémie, il voulait aller à Jérusalem. Il y avait 4 mois de marche. 4 mois, ou avec une monture, c'est un voyage. Depuis Suse, la capitale, c'est pas tellement loin de Babylone. Ça, c'est en Irak, ça. Ou en Iran, dans ce bout-là. 4 mois de voyage. Et il avait un but. Revenir en Israël pour rebâtir les murailles de la ville. Vous savez l'importance des murailles dans l'Antiquité. C'est pas si vieux que ça. Même la ville de Québec, c'est une ville entourée de murailles. Dans le Nouveau Monde, pour ça. En Europe, et en Orient encore beaucoup plus, et à l'époque de la Bible, les murailles, ça veut beaucoup dire. Une ville sans murailles, c'est une ville sans défense. Une assemblée sans murailles, c'est une assemblée sans défense. Ainsi, il avait un but déterminé, une vision de quelque chose à faire. Ça, c'est important, une vision, se fixer un but, quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le bien de l'assemblée. Bien, lui, il avait une vision, un but à atteindre. Il y avait des convictions basées sur la parole de Dieu. Si vous lisez plus loin, vous verrez qu'à un moment donné, il bâtissait la muraille avec une truelle d'une main, puis l'épée de l'autre. Ce qu'il croyait, ce qu'il voulait faire, valait la peine d'être défendu. Ça veut dire d'avoir des convictions qui valent la peine d'être défendues. Pas être fanatique, mais il faut avoir des convictions. Il y en a qui, bien, on croit ça, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Faites donc n'importe comment. Un accent de conviction. Des convictions spirituelles basées sur la parole de Dieu qui valent la peine d'être défendues. C'est ce qu'on voit de ces gens-là. C'était le cas dans le temps de Néhémie. Il bâtissait la muraille, mais il y avait des ennemis, comme nous, pour bâtir une église locale. Bien, il faut dans un sens avoir la truelle à la main et l'épée aussi, qui est pour se défendre contre les erreurs. Il faut que les chrétiens de l'assemblée pas seulement les frères enseignants, puissent dire pourquoi on croit à telle chose. On fait ça parce que on nous a dit de faire ça. Il faut savoir pouvoir prouver nos convictions par la parole de Dieu. Il faut être des chrétiens convaincus qui sont capables de défendre leurs convictions devant quiconque nous en demande la raison. Autrement, c'est la faiblesse. Or, l'amour, B, un but, c'est des convictions, B, le don d'encourager les autres. On voit dans le livre de Néhémie, même au chapitre 2, quand Jérémie a partagé avec les autres, « Levons-nous, bâtissons !» Jérémie a entraîné tout un peuple à rebâtir la muraille. Puis si vous regardez plus loin, dans le chapitre 3, vous verrez, ils bâtirent chacun devant sa maison. Chacun a contribué à quelque chose. Le don d'entraîner d'autres. Ça, c'est un beau don. Le don d'encourager d'autres. L'année passée, c'était le sujet, hein, le courage. Mais on doit non seulement avoir du courage nous-mêmes, on doit avoir le don d'encourager les autres. Que ce soit comme un feu qui se propage. C'est triste, quelqu'un qui a le don de décourager les autres. Bien plus beau, quelqu'un qui a le don d'encourager ses frères et sœurs. Avec la lettre E, on peut dire un homme entièrement consacré. Entièrement consacré. C'était le cas de Néhémie. Un homme qui avait quelque chose en vue à faire. Néhémie, il occupait une place d'importance. Vous savez qu'à cette époque, les chansons, c'était celui évidemment qui servait la boisson au roi ou à un souverain quelconque. Et c'était une position de grande responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il aurait bien pu mettre du poison dans la coupe, puis il aurait fait disparaître le roi. Imaginez-vous la position de responsabilité que Néhémie pouvait avoir et qui était un étranger, puisqu'il était un rescapé d'Israël qui était à la cour d'un des rois à Suse, un des rois des Mèdes et des Perses. Donc, c'était une position de grande responsabilité. Et si un tel personnage se présentait devant le roi avec une allure triste, il risquait d'être limogé et même mis à mort. Le roi voulait voir en sa présence bien que des gens de bonne mort. Mais il a été courageux, courageux. Quand il a entendu la nouvelle de personnes qui venaient de la terre d'Israël, et puis qu'il a su, ça lui a été confirmé que Jérusalem était en ruine, il n'y avait rien qui se faisait, il a été attristé, il a prié. Puis il a demandé à Dieu, ce qu'on a lu à la fin du chapitre 1, il dit, donne à ton serviteur, fais-lui trouver grâce devant cet homme. La première chose qu'il a faite, il a prié. Comme notre frère nous a dit ce matin, Marie, dans le chapitre 2 de l'évangile de Jean, elle est allée vers le Seigneur Jésus. Nous, c'est notre tendance d'aller aussi vers d'autres, mais on doit aller d'abord vers le Seigneur. Il a prié. Il a prié. Et quand le roi lui a demandé qu'est-ce qu'il avait, il a prié encore. Et je dirais que la vie de Néhémie, elle peut être résumée par ces trois mots. Prière, travail, courage. Il y en a d'autres, vous voyez. Prière, travail, courage. Néhémie était fort dans la prière. Fort dans la prière. Prier, c'est important, pas parce qu'on renseigne Dieu sur nos circonstances, il les connaît. Même il connaît nos épreuves avant même que ça nous arrive. Il connaît tout. On renseigne pas Dieu en priant. Seulement, la prière est importante parce qu'elle exprime notre dépendance de Dieu. Quand je prie, j'exprime à Dieu que je suis dépendant de lui, que j'ai besoin de lui. Et c'est important parce que par la prière, on exprime aussi notre reconnaissance à Dieu. Dieu veut que de nos cœurs s'exprime la reconnaissance, comme de nos bouches. Et on voit que Néhémie s'est prié. Il est triste en voyant l'état, en apprenant l'état du peuple, mais dans Néhémie 8 par exemple, Néhémie 8 verset 10, il dit « La joie de l'Éternel sera votre force. » Parce que dans le fond, il est joyeux quand même en rebâtissant cette muraille. La prière est importante aussi parce qu'elle exprime là où on trouve la force. Elle montre qu'on a confiance en Dieu pour nous aider à mener à bien ce qu'on veut entreprendre pour lui. Dans le premier chapitre, on voit Néhémie prier à cause de l'état du peuple de Dieu. Quand il a entendu, voyez-vous, au verset 4 du chapitre 1, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Dieu des cieux, c'est une expression qu'on trouve seulement depuis la captivité. C'est comme si Dieu, qui était le Dieu d'Israël, s'était retiré dans les cieux. Vous savez, Dieu était là avec son peuple, c'était une théocratie, puis depuis qu'ils ont été emmenés en captivité, Dieu t'appelait le Dieu des cieux. Comme si Dieu s'était retiré de la terre pour être dans les cieux. Et là, Néhémie, prie Dieu, à cause de l'état du peuple. Dans la version d'Arbi, au verset 7, de notre là où est-ce qu'il dit, « Nous t'avons offensé, nous n'avons point observé tes commandements », il dit dans la version d'Arbi, « Nous avons très mal agi contre toi. » C'est une autre de ces occasions où on voit que le péché est contre Dieu. Nous avons très mal agi contre toi. Il reconnaît sa culpabilité. La prière est importante parce que dans la prière, on reconnaît aussi nos fautes. Autrement dit, on fait nos confessions privées et publiques. Dieu ne peut pas avoir contact avec le péché. Alors dans la prière, on a toujours un moment, en général au commencement, où on commence par la confession. On confesse à Dieu nos péchés. C'est important ça. On doit le faire tous les jours, peut-être même plusieurs fois par jour, sans doute. Et publiquement à l'assemblée aussi, pas au culte, mais aux réunions de prière, et en privé avant le culte. Mais aussi dans la prière, il rappelle les promesses de Dieu. Au verset 8 et 9 du premier chapitre, on a lu, il dit, « Souviens-toi de cette parole que tu donnes à Og, à Moïse, ton serviteur. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés aux extrémités du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » Dans la prière, on rappelle à Dieu les promesses et les engagements qu'il a pris envers nous. C'est important, très important. Je répète de nouveau, pas parce que Dieu ne s'en souvient plus, mais parce que Dieu veut voir en nous qu'on se rappelle de sa parole. Ainsi, prier, c'est rappeler à Dieu les engagements qu'il a pris. Puis plus loin, on voit, voyez-vous, au verset 10, « Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as rachetés par ta grande puissance. » Souvent, dans l'Ancien Testament, on voit les fidèles qui prient, ils rappellent la rédemption. Nous aussi, dans nos prières, nous rappelons la rédemption. On revient toujours là. Quand on est sauvé, qu'on connaît le Seigneur, on revient toujours à la rédemption. « Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as racheté ou de ce que tu nous as racheté. » On rappelle à Dieu ce qu'il a fait envers nous, les promesses de sa parole, mais particulièrement ce qui a trait à l'œuvre de la croix, à la rédemption. Dieu aime à ce qu'on lui rappelle dans sa présence que nous sommes son peuple racheté, et racheté à un grand prix. Donc, on l'a dit, l'entretien avec Artaxerces, ce ce puissant monarque, il a été précédé et accompagné par la prière. Quand le roi lui demande, mais qu'est-ce que tu as, tu es triste. Ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. Tu n'es pas malade, ça ne peut pas être autre chose. Qu'est-ce qu'il fait, la première chose? En lui-même, il prie de nouveau. Une courte prière, spontanée, qui vient du cœur, peut avoir devant Dieu plus de valeur qu'une longue prière répétée machinalement et sans réflexion. Il y en a plusieurs, si vous lisez le livre de Jérémie, il y en a plusieurs de ces courtes prières, je pense à une là, que je pense pouvoir mettre les doigts dessus. « Ô Dieu, fortifie-moi » chapitre 4 au verset 9. Tous ces gens voulaient nous effrayer et se disaient, ils perdront courage et l'œuvre de Dieu ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Une courte prière, une simple prière, quelques mots, ça a de la valeur devant Dieu. Un soupir pour demander à Dieu de lui donner secours et la force au moment opportun, au moment voulu. Plus loin, on voit aussi Néhémie prier face à l'opposition. Au chapitre 2, au verset 10, on voit Sambala, le Horonite, Tobija, et plus loin, sa famille n'a pas pu trouver sa généalogie. Ce n'étaient pas des vrais Israélites. Ils s'étaient infiltrés là, mais ce n'étaient pas vraiment des vrais Israélites. Eh bien, ils étaient des ennemis. Alors, face à l'opposition, on voit aussi Néhémie, à plusieurs reprises dans son livre, prier. Parce qu'évidemment, quand on veut faire quelque chose pour Dieu, il y a une réaction. Toute action amène une réaction. Quand on veut faire quelque chose pour Dieu, on s'aperçoit qu'il y a un ennemi et on est attaqué. C'est impossible de travailler pour le Seigneur sans faire l'expérience des attaques de l'ennemi. Ça fait bientôt 50 ans que je suis sauvé, puis ça fait plus de 30 ans que je suis à l'œuvre plein temps. Alors je vous parle d'expérience. Je vous parle d'expérience que quand on veut faire quelque chose pour Dieu, et on fait l'expérience que le diable ne gaspille pas ses munitions avec un chrétien qui dort. Ainsi, le diable nous attaque. Et on voit ça dans le livre de Néhémie. Mais on voit à plusieurs reprises Néhémie qui rappelle à Dieu ses promesses, comme on l'a dit. Au chapitre 9, on voit ça, au verset 33, il dit, « Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé. Tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. » Chers amis, laissez-moi vous dire ceci. Ne mettez jamais en question l'amour et la fidélité de Dieu. Ça ne faut jamais faire. Même quand ça va mal, même dans l'adversité, même quand il nous arrive des épreuves, le monde dit, mais qu'est-ce que j'ai bien fait pour mériter ça? Le chrétien ne dit pas ça. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu fidèle, quelles que soient les circonstances, même si on ne comprend pas. Dieu agit toujours en rapport avec son caractère. Dieu, il n'est pas seulement dit Dieu aime, Dieu il est amour. C'est ce qu'il est en lui-même. C'est ce qu'on appelle une de ses qualités intrinsèques. C'est ce qu'il est dans sa personne. Il n'y a rien qui ne vient pas du cœur de Dieu qui n'est pas fait par amour. Même si quand il châtie les méchants, c'est pas parce qu'il les a pas aimés, il n'a pas voulu leur bien. Donc, on ne doit jamais mettre en question le fait que Dieu est juste, que Dieu est amour. C'est ce que Néhémie dit, tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé. C'est nous qui avons fait le mal. Néhémie rappelle la fidélité de Dieu. Non seulement Néhémie, on le voit prier à plusieurs reprises, mais son livre termine par une prière. Il termine le livre même par une prière au chapitre 13. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. Pas long comme prière. mais c'est une belle prière. On voit aussi que sous l'influence de Néhémie, on va le lire au chapitre 9, chapitre 9 de Néhémie, non, chapitre 8 déjà, au verset 14. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois et proclamer cette publication dans toute leur ville et à Jérusalem. Aller chercher à la montagne des rameaux d'olivier, des rameaux d'olivier, des rameaux d'olivier sauvage, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier, des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes comme il est écrit, etc. Et puis ils ont célébré la Pâque. Voyez-vous, Néhémie a eu une influence pour que le peuple aussi célèbre la Pâque et adore Dieu. Non seulement il a prié pour des besoins, non seulement il a prié pour confesser ses propres fautes et celles qui avaient attiré le jugement de Dieu sur le peuple d'Israël, mais il a aussi conduit le peuple, avec, quand on voit avec Esdras aussi, célébrer la Pâque pour que Dieu soit adoré et célébrer aussi la fête des tabernacles, comme on l'a lu là. Dans le chapitre 9, c'est intéressant parce que Esdras 9, Néhémie 9 et Daniel 9, c'est trois belles prières. Là, c'est des longues prières. On les lira pas parce qu'on va faire rien de donner la Bible. Mais c'est des belles prières. Des prières qui valent la peine d'être lues et méditées. Je répète, Daniel 9, Néhémie 9, Esdras 9. Par des hommes de Dieu. Des belles prières. Alors, on voit des prières courtes. On voit des prières longues. On voit aussi des prières, des actions de grâce, et on voit le culte de l'Éternel qui a été restauré. On voit l'influence d'un homme de prière, d'action, de courage dans sa propre génération. Ça, c'est un bel exemple. Toute proportion gardée pour chacun de nous. Un exemple de travail. Il était échevin. Pas échevin, mais échanson, excusez-moi. La fourche m'a langué ou la langue m'a fourché, comme vous voulez. Il était échanson et il aurait pu dire, mais je suis bien occupé ici, j'ai une bonne job, comme on dirait, je m'en vais donner quelque chose pour ceux qui veulent bien retourner. Mais on voit, il a su se libérer. Maintenant, je veux pas dire par là que on devrait tous se libérer de notre travail séculier, et puis tout le monde se mettre plein temps. C'est pas tout le monde qui est appelé à un ministère plein temps. C'est réservé à quelques-uns ou quelques-unes. Néanmoins, on doit aussi trouver moyen de se libérer dans nos occupations et préoccupations pour servir le Seigneur. Néhémie était dans une position de responsabilité. Imaginez-vous demander au roi à Suse, la capitale, de pouvoir être libéré pour aller rebâtir la muraille qui avait été détruite en jugement de Dieu, mais par les ennemis du peuple. C'était toute une demande à faire. Mais le temps de Dieu était arrivé, et évidemment Dieu a disposé le cœur du roi Nebuchadnezzar pour qu'il permette la reconstruction de la muraille. Et même, il a donné des lettres de créance. Alors, moi, je dirais qu'il y a une leçon de voir un homme, malgré sa situation, qui est libéré. Et dans la Bible, on voit souvent, Dieu demande à des personnes bien occupées, déjà, de faire quelque chose. C'est sûr qu'aujourd'hui, pour gagner notre croûte, faut travailler. On peut pas avoir un salaire sans travailler. Mais il ne faut pas attendre d'avoir notre pension ou d'être à l'âge de la retraite pour faire quelque chose pour le Seigneur. Ceux qui n'ont rien fait plus jeune, souvent feront rien plus tard. Et même c'est quand on est jeune qu'il faut s'engager pour le Seigneur. Vous savez, c'est quand même remarquable dans la Bible. La Bible met beaucoup d'emphase sur le respect aux personnes âgées. La Bible souligne le respect que les jeunes doivent avoir pour ceux qui ont les cheveux blancs. Mais d'autre part, dans la Bible, on voit que souvent, ceux qui ont été appelés à servir Dieu étaient des jeunes. Et même les disciples, les 12, c'était des gars dans la vingtaine à qui le Seigneur a fait confiance. Donc, on voit d'une part l'équilibre, le respect que les plus jeunes doivent avoir pour les gens qui ont de l'expérience et de la maturité qui ne s'acquiert qu'avec les années. Mais d'autre part, l'enthousiasme, la force, le dynamisme que les jeunes doivent avoir pour faire quelque chose. Et apprendre en faisant des erreurs aussi. Parce que si on acquiert de l'expérience, c'est parce qu'on s'est trompé souvent, puis qu'on a fait des bêtises, puis qu'on veut plus faire les mêmes erreurs. En tout cas, c'est mon cas. Donc, Néhémie, il a su se libérer. Et quand on est jeune, il faut aussi savoir se libérer. Il y en a qui font des études, puis qui ont le temps, quand même, de venir aux réunions de prière. Moi, je veux dire franchement, à cette fois, je suis édifié par les étudiants qu'on a connus, qui ont fait des études, certains des études assez avancées, même en médecine, ou d'autres, et qui ont le temps de venir à la réunion de prière. Puis il y en a d'autres qui n'ont jamais le temps. Jamais le temps pour rien. J'ai connu aussi, même en Suisse, des hommes d'affaires à la tête de grandes entreprises qui avaient des centaines et des milliers d'employés, des directeurs de compagnies, très très importants. Jamais manqué la réunion de prière. Se rendre disponible, ça c'est très important. C'était le cas de Néhémie. Il a pu se rendre disponible et faire tout le voyage. Je répète, ça prenait 4 mois pour faire le voyage. On voit ça d'après un verset dans le livre d'Esdras. Il a osé parler. On a parlé de la timidité, des difficultés. C'est sûr que il devait être un peu travers dans ses culottes quand le roi lui dit, mais qu'est-ce que c'est ta belle triste. Imaginez-vous, il avait peur de se faire raccourcir. Hein? Mais il a eu le courage de dire la vérité, puis Dieu l'a béni. Ça prend du courage de rendre témoignage. Pas rien que là. À bien d'autres occasions, le Seigneur nous donne souvent des occasions qu'on manque de courage. Bien, Néhémie est un exemple de courage. Devant un monarque païen qui avait droit de vie et de mort sur ses sujets et sur ceux qui travaillaient pour lui, bien, il a rendu un témoignage. Il croyait au Dieu de ses pères, au Dieu d'Israël, au vrai Dieu. Mais nous aussi, qu'on en sait beaucoup plus sur l'amour de Dieu que Néhémie le savait, bien, on doit aussi avoir du courage et avoir pas honte de témoigner. On voit au chapitre 2, Néhémie a entraîné d'autres, hein. Quand il est arrivé là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le tour de la ville sur sa monture. Il y avait tellement de décombres, il n'y avait rien que son mulet qui pouvait passer. Il a peut-être eu de la misère avec sa mule, parce que, vous savez, des mulets. Moi, j'ai été au service militaire, à l'époque, on avait des mules. Puis, les montagnards, vous savez ce qu'ils disent? Le mulet, il est à moi, mais sa tête, elle est à lui. Moi, j'ai déjà vu taper de toutes nos forces sur une mule qui ne veut pas avancer. Imaginez-vous, ça ne devait pas être facile. Quand le passage était obstrué, la mule devait se boquer, puis plus vouloir avancer. Néhémie a fait tout le tour, il s'est donné de la peine. Si on veut servir le Seigneur, il faut savoir se donner de la peine. Pourquoi? Ben, c'est pas compliqué, il y a un proverbe profane qui dit « on n'a rien sans peine ». On n'a rien sans peine. Travailler pour le Seigneur, c'est un peu transpirer. C'est pas facile. C'est se donner de la peine. Tout ce qui vaut la peine d'être fait pour le Seigneur vaut la peine d'être bien fait. C'est Néhémie qui a pris le temps de faire le tour avant de parler aux autres. Puis après, il a entraîné les autres, voyez-vous. Il les a tellement bien entraînés que les autres ont dit « levons-nous, puis bâtissons !» L'influence d'une minorité. En bien ou en mal, dans une assemblée. Souvent, une minorité peut faire du bien ou du mal dans une assemblée. Et on voit ça, là. Néhémie, arrivé de la Babylonie, a eu une influence salutaire sur le petit noyau qui était remonté de la captivité, pour les encourager à rebâtir la muraille. Parce que Dieu voulait que ce soit rebâti. Vous savez pourquoi c'est important? Parce que, environ 400 ans plus tard, le Messie devait venir, et ça devait être rebâti. Dieu avait des raisons, et ces hommes de Dieu, ces femmes, qui ont rebâti la muraille, c'était voulu de Dieu. Dieu voulait que ça se reconstruise. Dieu voulait qu'il y ait un petit reste, ou comme on l'appelle des fois, un petit résidu de son peuple, qui soit revenu de la captivité pour recevoir leur Messie. Donc, ces gens-là travaillaient selon la pensée de Dieu. Mais quand on travaille à annoncer l'Évangile, on travaille aussi selon la pensée de Dieu à bâtir un édifice important, un édifice spirituel, que Dieu lui-même veut qu'il soit reconstruit. On voit plus loin, quand il y en a qui ont voulu se joindre au peuple, comme Sambala, puis Tobija, qu'est-ce qu'il a dit à la fin du chapitre 2? Vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Ça, c'est contre l'œcuménisme, ça. C'est seulement les croyants authentiques qui doivent travailler à l'œuvre de Dieu. On ne peut pas s'associer avec toutes sortes de monde, comme le mouvement œcuménique voudrait le faire, pour associer les gens de toutes les religions ensemble. Pas du tout. C'est contraire à la pensée de Dieu. Vous n'avez ni part, ni droit, ni lot dans cette affaire. Le peuple de Dieu doit être séparé des autres peuples. Plus loin, on voit qu'il a organisé le travail. Parce qu'on voit Néhémie, il a été serviteur, il a été constructeur, elle a été gouverneur. Celui qui est fidèle dans ce que Dieu lui donne à faire, bien Dieu lui donne plus. On ne peut pas s'attendre à faire des grandes choses quand on n'a pas déjà fait fidèlement des petites choses. La Bible dit, le Seigneur l'a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes choses. Alors il y a beaucoup à dire. Si vous étudiez le livre de Néhémie, vous allez voir toutes les leçons qu'on a tirées. Moi, en me préparant un peu sur le livre de Néhémie, depuis que j'ai fait ces découvertes moi-même, je me suis aperçu qu'il y avait des articles dans certains magazines, je n'ai même pas eu le temps de les lire, mais j'ai vu que dans différents endroits, il y avait différentes leçons qui étaient tirées de ce livre de Néhémie. Et je me suis confirmé dans la pensée que ce livre est très à propos pour nos temps. Parce qu'on vit aussi dans des temps où tout a été ruiné. Et si on veut faire quelque chose pour Dieu, bien, on a besoin de s'encourager, de se fortifier, comme Néhémie et le peuple d'Israël avaient besoin d'être fortifiés. Bien que Dieu bénisse quelques pensées pour sa gloire et pour notre encouragement.